Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Hassan Abdelrahman, nous avons la chance de vous avoir avec nous en studio. Qu'est-ce que nous venons d'entendre ?
Les morceaux que je viens de jouer, c'est... J'ai commencé par Jam. Jam, J-A-M. Et Le deuxième s'appelle Riwaya. Riwaya, c'est un peu la tentation de la séduction. En arabe, voilà.
Alors, avec vous, nous allons parler de musique, notamment de musique orientale. Nous allons évoquer les instruments traditionnels, le oud notamment. Vous allez nous permettre de mieux comprendre la musicalité, les sonorités, la poésie de cette musique. Vous nous direz également les rythmes, les traditions, les évolutions, la rencontre des cultures. Vous nous parlerez, si vous le souhaitez, de votre pays.
Ok, tout ça.
Ouais, il y a beaucoup de choses.
Ouais, c'est vrai.
Alors Hassan, vous jouez du oud depuis l'âge de 16 ans. Vous avez étudié la musique traditionnelle arabe à Alep. Vous avez créé aussi plusieurs groupes. Vous avez enseigné aussi votre instrument à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et aussi sur votre passion pour la musique?
Mon parcours... en fait, moi, je n'étais pas censé de devenir musicien. C'est vrai, je joue de l'âge de 16 ans et j'ai appris la musique quand j'étais à l'université. Je faisais des autres études. Mais j'ai décidé de changer assez tardivement, en fait. À l'âge, je crois, de 26 ans, 27 ans, j'ai décidé, allez, je fais la musique. J'ai laissé tomber tout le reste. Parce qu'il faut dire, en Syrie, c'est pas évident de faire ce métier. Pour ça, j'ai pas... On peut devenir prof, hein, pas ça, bien sûr. Mais à l'époque, c'était... C'était un métier très... il n'y a pas beaucoup d'espace, en fait, pour les musiciens. Au moins avant, hein, c'était avant. Moi, je parle des années 80. Hein. Et bref, alors j'ai décidé de changer d'orientation dans ma vie. Et j'ai commencé à jouer. C'est vrai, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre la musique traditionnelle. J'ai rencontré pas mal de musiciens, des maîtres... à Alep et à Damas. J'ai appris pas mal de choses, mais mon esprit est toujours dans la musique moderne. Depuis très tôt, en fait, je suis dans la composition, si vous voulez. Dans la composition, je joue toujours le traditionnel, comme ça, la musique traditionnelle, mais mon esprit n'est pas là-bas, vraiment. J'ai besoin de composer, de faire une musique actuelle qui me chante moi. Personnellement. Et voilà, qu'est-ce que je peux aussi parler de mon parcours? Ça fait 18 ans que je suis en France et je suis venu avec deux ouds. C'était mes bagages avec une valise de 20 kilos. Alors, les deux ouds, c'était mon outil de travail et en fait, un mois après mon arrivée en France, j'ai commencé à jouer avec des musiciens. Et j'ai commencé avec un groupe celtique, jazz oriental celtique, avec un musicien de Bretagne, deux musiciens bretons, un musicien parisien, et moi, voilà, ça s'appelait Discan à l'époque.
Ça devait faire un curieux mélange, jazz oriental celtique.
Oui, oui, c'était avec surtout la bombarde et la flûte irlandaise, en fait. C'était vraiment formidable. Mais c'était rapide dans ma tête. On était en Bretagne. Tout de suite, en fait, je suis arrivé à Paris. Quelques semaines après, j'étais en Bretagne et j'ai eu la nature. Là-bas, c'était vraiment à côté de Rostronan, un village qui s'appelle Glomel. Je garde toujours, c'est un petit village. Pour moi, c'était magique. Là-bas, c'est les églises de 11e, 2e siècle. Pour moi, c'était la première fois que je quitte la Syrie. Hein. J'avais l'âge à l'époque, je ne sais pas, 34 ans, 5 ans. Et c'était magique. Et avec la musique, c'était vraiment... Je garde des très, très bons souvenirs de cette période. Bon, après, j'ai formé mon groupe qui s'appelle César. C'est un quartet de jazz oriental qui existe jusqu'à maintenant, on résiste, on continue avec clarinette, avec un musicien norvégien qui s'appelle Ketil Selvik, un compositeur et joueur de clarinette, et deux musiciens strasbourgeois, Nicolas Beck et Fabien Guyot. Et c'est un groupe que je tiens beaucoup, parce qu'on ne joue pas beaucoup, en fait, parce qu'on est très loin l'un de l'autre, mais on a envie que ça continue comme projet musical et humain aussi. Voilà.
On parle de parcours hein, toujours. Mm. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi?
Parcours.
Ça m'a plu en fait. De faire la musique en France, ça m'a beaucoup plu. Je trouvais que c'est un métier bien apprécié et c'est bien. Pour moi aussi, comme il y avait la barrière surtout au début de la langue, la musique m'a aidé à intégrer la société beaucoup plus facilement. Et on peut gagner de la vie de la musique en faisant sa propre musique. C'est pas évident. On peut gagner la musique n'importe où en faisant une musique, voilà, qui est dans une musique traditionnelle, une musique populaire, ou etc. Mais des fois, qu'on vit de la musique qu'on compose, c'est pas évident. En France, moi, je parle de la France parce que j'y suis. Je trouve que c'est génial quand même. C'est voilà. On n'a pas besoin d'être star pour vivre de la musique, c'est ça en fait la différence. Des fois, vraiment, là-bas, il faut, ou ailleurs, je ne sais pas où, il faut vraiment être star. Comme ça, ok, c'est bon. Là, non, même un musicien qui n'est pas star, je ne sais pas comment je peux me classer, mais on peut faire la musique, ses compositions, enregistrer, jouer, gagner sa vie de ça.
Voilà. Est-ce que, voilà.
Alors, si vous voulez, on va peut-être quand même dire quelques mots de l'instrument dont vous jouez, le oud. Qui est un instrument à cordes pincées, qui aurait vu le jour en 1800 avant notre ère, à Babylone. Oui. Les Égyptiens l'utilisaient pour leurs cérémonies. On le retrouve plus tard à Médine. Et jusqu'en Andalousie, il ressemble aux luths occidentales, même nombre de cordes, même forme. Quoi dire de plus?
C'est, en fait, le luth oriental ou le oud, c'est. Après, l'origine. Il y a beaucoup de théories. Mmh. Voilà. À mon avis, le principe du oud, c'est comme le principe de la guitare, ça existe depuis très très longtemps. Mmh. C'est les cordes pincées, on va dire. L'Égyptien, même avant l'Égyptien, je crois. Mais cet instrument, avec cette forme, avec demi-poire comme ça, c'est vrai, ça a été créé peut-être 8e, 9e siècle. Et il a gardé sa forme, c'est ça qui est beau, il a gardé la forme, après on a rajouté des cordes maintenant, avant il y avait 4 cordes seulement, maintenant on a 5 ou 6 cordes doublées, et des fois on a même 7 cordes doublées. Cet instrument a fait un très beau voyage au 11e, 12e siècle avec Ziryab qui est parti de Bagdad vers l'Andalousie, il y avait à l'époque. Il a été viré, en fait, de Bagdad parce qu'apparemment, il y avait la concurrence, la jalousie avec un autre grand musicien qui était proche du calife à l'époque. Alors, on a expulsé ou envoyé Ziryab vers Cordoue. À l'époque, il a amené avec lui la musique du Moyen-Orient. Et il a amené ici, il a amené avec lui, même, ils disent, la cuisine du Moyen-Orient aussi. C'était, voilà, on enseignait, est-ce qu'on enseignait tout ça ensemble, je ne sais pas, mais ce qu'on lit dans le livre, qu'il a amené ça avec lui, bref, il a formé une grande école à Cordoue. Et on voit ça, en fait, maintenant, on voit les traces de la musique orientale, de la musique espagnole, flamenco, et on voit aussi les traces de la musique espagnol dans la musique orientale, en fait, grâce à l'Exode qui est 5 siècles plus tard, il y avait l'Exode, et ces musiciens, ils ont amené cette culture, le résultat de ce travail, de ce mélange qui s'est fait vers l'Afrique du Nord, vers le Moyen-Orient, et l'instrument a été développé. Ils ont amené aussi, développé, c'est la lutherie tout simplement, c'est la finesse, c'est le son qui a été modifié. Et jusqu'à maintenant, on trouve. J'adore cette histoire, en fait, comment la musique et le oud oriental a fait ce voyage il y a, je ne sais pas, 11, 12 siècles. Après, il a fait le retour dans le sens inverse. Ça veut dire, à chaque fois, il y a un exode, toujours, il y a la culture qui voyage et qui change un peu, qui se modifie un peu, qui s'adapte. Et voilà, c'est comme ça, apparemment. Notre histoire. En Syrie, par exemple, moi, j'étais à Alep, j'ai appris pas mal de morceaux traditionnels, mais en cherchant, en fait, les mêmes morceaux existent aussi en Afrique du Nord et ils existent même dans la musique espagnole. Il y a des thèmes qui existent dans la musique espagnole. C'est vraiment magique, je trouve. Il y a un côté très, très beau.
Et oud, ça veut dire bois en arabe?
Oud, c'est bois, oui. Un morceau de bois, en fait. Voilà. Oui. Allez, avant, c'était les cordes comme en Europe. Hein, les cordes, c'était en boyau, hein, à partir de les testins des animaux. Maintenant, c'est soit en nylon, soit en métal mélangé, on peut dire, au fil de cuivre avec la soie. On l'utilise en fait très rarement, les cordes en boyau. Comme la musique baroque, par exemple. Si on fait vraiment la musique baroque, on utilise toujours ces cordes-là, mais c'est très compliqué, plus compliqué que les cordes modernes, on peut dire.
Alors, quand vous dites que vous avez étudié la musique traditionnelle, est-ce qu'elle est écrite ou c'est juste une tradition orale? Comment on apprend la musique traditionnelle? Il y a des partitions?
Il y a des partitions, mais on a fait les partitions vraiment au 19e siècle. Avant, il n'y avait pas. Ça veut dire que cette musique a été transmise historiquement, oralement. Et il y a des musiciens avec la période de l'Empire ottoman. Les musiciens turcs et syriens aussi, et autres bien sûr, ont commencé à écrire cette musique. Alors on trouve maintenant des traces écrites. On a des partitions. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai appris à partir des partitions, pas mal de choses. Et il y a beaucoup de choses aussi que je les ai déjà dans l'oreille. Alors, il y a les deux toujours, en fait, dans l'apprentissage. Je parle de pays du Moyen-Orient. Il y a toujours les deux méthodes, en fait. On garde l'apprentissage oral et il y a toujours, en fait, ça aide l'écriture de la musique. Ça aide, ça, on peut avancer plus rapidement. On peut l'étudier plus précisément aussi. Il y a les deux.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'aventure du groupe Talawin que vous avez créé?
Talawin. Talawin, c'est coloriage. Moi, je viens de la Syrie avec ma culture. J'ai rencontré d'abord Roméo Montero, un percussionniste. Et il fait aussi j'ai appris après, en fait, il fait pas mal de choses, musique électronique et tout ça, mais il est très modeste, il dit rien, lui. Roméo, j'ai fait sa connaissance, je crois, il y a 4 ans et quelques, et après, c'est lui qui m'a présenté, c'est Nicolas Najot, le clarinettiste et compositeur. Et ça fait presque 3 ans, 3 ans et demi que le groupe existe. Moi, en fait, parce que je suis à Lyon depuis 7 ans. Ouf, non, ça fait plus que ça qu'on se connaît, alors. Peut-être ça fait 5 ans. Ça fait peut-être 5 ans que Talawin existe. À vérifier. Moi, je suis arrivé à Lyon avec cette idée de travailler avec un clarinettiste et percussionniste. Et j'avais de la chance, en fait, de connaître Nicolas et Roméo. C'est tout de suite, ça s'est passé très bien. Parce que là, notre musique, en fait, c'est vrai, la plupart du temps, c'est moi qui compose. Mes compositions, si les autres ne les sentent pas vraiment, il y a beaucoup de la place pour comment on interprète cette musique, comment on le sent, en fait. C'est pas, moi, j'écris pas ma musique. Je compose, je joue, je compose, j'enregistre, j'écris pas. Et eux aussi, ils ont préféré cette méthode. On écoute, on sent, on s'écoute et... Il y a quelque chose qui s'est passé très sympa, que, comme on dit, le fibre qui... le fibre, on dit, non, pas ça. Il y a un autre mot pour expliquer ce qui s'est passé là, je trouve
le
pas.
Feeling.
Le feeling, par exemple, oui, le feeling, oui, un très bon feeling.
Mais qu'est-ce qui est le plus important? Pardon pour la question, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est les affinités, les rencontres dues au hasard de ces deux musiciens, ou est-ce que c'est votre volonté à vous en tant que compositeur de faire se rencontrer des percussions, des bois et des cordes? Ou est-ce que c'est un peu les deux?
Bien sûr, un peu les deux. Hein. On peut dire que c'est un peu les deux, mais non, c'est pas que ma volonté, en fait. Moi, par exemple, tout simplement avec Roméo et Nicolas, j'amène l'idée. C'est ça l'idée. Et ben, on travaille. Après, on a un résultat qui est très frappant quand même. Ça, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais on change beaucoup en jouant. Quand on joue ensemble, on transmet l'énergie, on transmet les idées, on échange. Et du coup, il y a des idées qui se créent pendant le travail. Pendant le travail de préparer le morceau, on a des idées. Et toujours, en fait, les morceaux qu'on a, en fait, c'est un travail commun. Même l'idée de départ, c'est peut-être de moi, mais en général, c'est un travail en commun. Et après, c'est un style, hein, il n'y a pas que ça. Moi aussi, il y a des points faibles dans ce système de travail. Je ne dis pas que c'est l'idéal. Mais là, on joue sur le feeling, voilà. On joue principalement sur ça. Je sais que je travaille avec des autres groupes. Non, tout est bien écrit. Tac, bien classé, il sait chacun qu'est-ce qu'il doit faire. On gagne beaucoup de temps, il y a une efficacité, mais peut-être on ne gagne pas cette complicité, on ne gagne pas un esprit. Voilà, c'est toujours ça en fait. On gagne des choses, on perd des choses. On ne peut pas comparer facilement apparemment. Mais en tout cas, avec Talawin, cet esprit-là, on est tous les trois d'accord que c'est bon, on va continuer comme ça. Et qu'on a continué, voilà.
Au fil des arts, 97.1 sur Color FM. Hassan, pouvez-vous nous dire ce que nous avons écouté et aussi nous parler un petit peu des instruments utilisés dans ce morceau?
Il y a en fait le doudouk. C'est un instrument avec un instrument d'origine arménienne et azérie et turque. C'est un instrument très doux, instrument avant vraiment très doux. Et il se trouve que Nicolas a déjà passé au moins un an et demi en Turquie sur plusieurs voyages pour en fait apprendre la musique turque. Alors il a appris la clarinette turque, c'est pas exactement la clarinette classique ou jazz, je ne sais pas, comme en Occident, c'est une clarinette, je crois, un peu plus long, et il peut faire aussi le quart de ton ou les sons orientaux plus facilement. Et il a appris aussi cet instrument, le doudouk. Et c'est un instrument fascinant, quoi. Le son est vraiment très beau. Mais après, c'est un son qui nous amène dans notre esprit. C'est très doux. On ne peut pas faire la musique un peu festif. Et même maîtriser on n'a pas beaucoup de... Techniquement, on ne peut pas aller très loin. Mais on gagne un son extraordinaire. Alors, c'était le douk-douk avec comme percussion, c'est le pakavach joué par Roméo. C'est un instrument d'Inde du Nord, comme le tabla, mais c'est un tube où on joue sur les deux côtés, en fait. Voilà, le pakavach avec le oud. Roméo, voilà, c'est en fait les instruments que Nicolas Najot joue, c'est voilà, surtout clarinette basse, clarinette turque et doudouk. Roméo, il fait alors les percussions de l'Inde du Nord et un peu l'Inde du Sud aussi. Il fait le pakavach, il fait le kanjira, c'est une petite percussion. Et, il fait après le daf, le zarb aussi, le darbouka. Et moi, je fais que le oud. Voilà.
Alors le titre du morceau, il est extrait aussi ce morceau d'un CD.
Ce morceau Chotal, c'est le nom, je crois, c'est un autre nom de la percussion. On l'a pas enregistré dans notre album en fait. On a fait un autre morceau avec le doudouk et le pakavach parce que ça fait longtemps qu'on le joue. On avait envie d'enregistrer des morceaux avec une fraîcheur, voilà. Mais on la garde quand même, on aime bien ce morceau.
Alors Hassan, on peut difficilement ne pas parler du drame syrien. C'est un chiffre qu'on a eu aujourd'hui, l'Office syrien des droits de l'homme, qui estime à 400 000 le nombre de morts engendrés par la guerre civile. Comment vous voyez les réactions des pays européens vis-à-vis de ces réfugiés qui tentent de vivre loin du conflit?
Les pays, en fait, c'est compliqué à voir comment l'Europe a réagi. Parce que d'un côté, c'est vrai, l'Europe a reçu quand même pas mal, on peut dire, des réfugiés, mais c'est clair que la politique européenne, c'est de fermer les portes maintenant. Mais des dizaines de milliers de Syriens qui sont en Europe, quand même, voilà, ils sont reçus. Après, ça dépasse, c'est pas facile. On trouve des gens qui reçoivent, qui proposent leur volonté à aider ces réfugiés syriens, des gens qui sont pas là, qui essayent de. Voilà, que ça les touche pas beaucoup, etc. On trouve tout finalement, on trouve tout. Mais c'est une preuve que le monde devient vraiment un petit village. C'est pas comme avant. Ça veut dire, si là, on dit avant, voilà, une guerre, l'Irak, Afghanistan, c'est un peu loin. Avec le temps, on voit que les distances, vraiment, finalement, il n'y a pas beaucoup de distances. Hein. On est vraiment sur la même planète, c'est le même village. Alors, moi, je compte sur ça pour que l'opinion publique en général, qu'on soit plus sensibilisé contre les guerres, parce que c'est pas... Les guerres, surtout quand je parle de la guerre syrienne, c'est une catastrophe hors norme. C'est pas que les 400 morts ou plus, à mon avis, c'est beaucoup plus. Le problème qu'il y a à peu près un demi-million de morts, mais il y a aussi plus qu'un million de blessés, 1,5 million de blessés graves quand même. Il y a au moins 3 millions d'enfants non scolarisés en Syrie, au moins. C'est ça, pour moi, j'ai peur de ça, plus que les morts, on est morts, on est morts, voilà, malheureusement. Mais les vivants, là, qu'est-ce qu'ils font? Comment? Ces 3000 enfants, ça veut dire 3000 personnes non éduquées, ça veut dire on a au moins des milliers d'enfants soldats hein, entre ces enfants-là, parce que s'il n'y a pas d'éducation, on peut aller n'importe où. Il y a les 10 millions de réfugiés quand même, ou plus, il y a les chiffres, mais juste les Syriens qui sont à l'étranger, c'est pas autour de 7 millions, 8 millions. C'est énorme quand même, vous voyez. Alors ça devient très compliqué, vraiment moi j'arrive plus, pourtant je suis le président d'une association qui s'appelle Alouane, couleur, ça veut dire couleur, à Lyon, pour aider en fait quelques centres d'éducation en Syrie, pour faire l'éducation en Syrie, on a en fait à peu près 650 enfants, on aide l'éducation pour 650 enfants, mais quand même ça fait peur, ces chiffres-là, je perds en fait, j'arrive pas à analyser, je suis perdu, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux en fait. Il y a les États-Unis, la Russie, il y a l'Iran, il y a la Turquie, il y a les pays du Golfe, il y a le Liban aussi, il y a Israël qui est dans le jeu, même s'il n'est pas trop dans les médias, mais bien sûr qu'il est présent aussi. Et les intérêts ne sont pas les mêmes, et du coup, on n'a plus en fait une décision nationale en Syrie. Il n'y a plus, ça n'existe plus, ni le régime, ni l'opposition. Qui décide, c'est les autres, mais ils ne sont pas d'accord, le problème. Et voilà, je suis un peu perdu. Je ne sais pas. Quand on me demande c'est quoi, comment on voit l'avenir, tout ça, je ne sais pas.
Alors, vous avez été aussi prisonnier. Vous avez été un prisonnier politique, d'opinion. Vous avez passé 8 années à la prison à côté de Damas. Il y a aussi donc, les morts, il y a le manque d'éducation, mais il y a aussi tous ces prisonniers.
Moi, j'étais en prison dans les années 90, de 88 jusqu'à 95. Il y avait des dizaines de milliers à l'époque, le nombre des prisonniers politiques. Maintenant, on est dans le chiffre 250 000. Il y a des dizaines de milliers des prisonniers qui ont été exécutés comme ça. C'est pas jugé, pas du tout. Et ça crée... qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça crée une tension, une haine énorme quand même, parce que c'est énorme. Horrible, plutôt. Heureusement, à mon époque, excusez-moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Moi, j'ai pu apprendre, même travailler la musique à mon époque. C'était interdit, mais j'ai pu, comme on était nombreux quand même, j'ai pu construire mon instrument. Il n'y avait pas assez de bois. Avec l'aide des amis, bien sûr, j'ai construit un oud à la base du bois et du carton, parce que le carton, avec le pain,
la mie de pain,
on peut faire un mélange avec le sucre, après on le sèche, ça devient très solide, on peut faire des choses qui ressemblent plus ou moins au bois, à la solidité de bois. Avec les cordes, au premier temps, les cordes de l'instrument, c'était les fils de nylon, des chaussettes. On tressait ça et on faisait je faisais les cordes à la base de ces fils. Et c'est vrai, il y avait un son qui était pas beau, il faut le dire. c'était pas très beau, mais pour moi, c'était extraordinaire.
En quelque sorte, c'est la musique qui vous a permis de tenir et vous a sauvé de tout ça.
Oui, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé, ça c'est sûr. Pardon, mais bon, après, on a construit pas mal d'instruments, des autres instruments. On a construit même un violon en prison. C'est une autre histoire qui dure longtemps pour raconter. Voilà, c'est vrai, à mon époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est fini tout ça. Maintenant, il faut survivre dans la prison. Il faut survivre. Là-bas, à l'époque, on était quelques dizaines de milliers. Maintenant, quelques centaines, hein, ça change. C'est pas... Et la tension, c'est pas pareil.
Alors, pour revenir à votre musique, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre groupe, le genre de musique que vous faites, c'est du jazz oriental. Comment pouvez-vous expliquer ce terme-là?
Il est inexplicable. Jazz oriental, c'est vrai, pour moi, je ne sais pas. On m'a dit, oui. Ah, c'est du jazz oriental. J'ai dit, ok, si vous trouvez c'est du jazz oriental, on l'appelle jazz. Non, moi, je n'ai pas étudié le jazz. J'écoute, j'aime beaucoup le jazz, mais en fait, j'ai commencé à bien aimer le jazz ici en France. Avant, je n'écoutais pas. J'écoutais classique plutôt, ou un peu rock, etc. C'est une autre musique. On dit jazz, c'est pas faux en fait, jazz oriental. Le jazz, quand même, c'est un monde très large, très vaste. C'est la liberté d'expression, c'est les rythmes un peu, voilà, qui. Un esprit. Pour moi, le jazz, c'est un esprit. Mais moi, je préfère dire que c'est une musique actuelle, moderne, inspirée de l'Orient et de l'Occident, si on veut. Parce que quand même, Nicolas aussi, quand il compose, en fait, pour moi, c'est pas Occident ou Orient, c'est notre musique finalement, c'est le résultat de cette rencontre. Et surtout, on cherche pas en fait à trouver des thèmes, de rythmes orientaux ou des... On ne cherche pas ça, que ce soit oriental ou occidental. On cherche notre musique, les choses qui nous plaisent, on va dire. Alors, ça donne... Voilà, on dit jazz oriental, c'est prêt pour simplifier, mais je dirais, c'est pas musique moderne, actuelle. Telle.
Quand même, quand on vous écoute, on peut pas ne pas penser à la musique orientale traditionnelle. Il y a quand même des sonorités qui en relèvent. Il y a...
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas la musique traditionnelle. Des fois, la sonorité, ok, le oud amène avec lui ce son. On a dans l'oreille le oud quand il joue la musique traditionnelle. On l'a. Mais la formation en tout, on n'est pas très loin quand même. Mais c'est pas la musique traditionnelle. La musique traditionnelle d'abord. C'est standard, c'est comme ça, il faut respecter, c'est comme ça, quand on joue un sonate ou une symphonie, etc., il faut faire ça, ça rigole pas. C'est pas notre cas. Après, il y a l'improvisation qui est toujours présente dans notre musique. Il y a aussi la recherche, des fois, la musique traditionnelle, elle a des bases. Nous, on n'a pas ces bases-là, on peut dire aussi. On essaye de voyager, même d'inspirer plusieurs choses, des fois jazz, des fois musique classique. Hein, des fois, la musique classique m'inspire beaucoup, personnellement. Mais la manière d'exprimer, pas du tout traditionnelle. Ou pas du tout, c'est pas traditionnel. Des fois, si, il y a des choses qui viennent de la musique traditionnelle chez moi, parce que je l'ai étudiée. Ça se voit des fois, ça s'entend, mais la totalité, non, c'est pas traditionnel. Ni le son, ni le style, la forme de composition.
Alors, comment avez-vous rencontré votre public? C'est une musique particulière, hein, s'il y a aussi un public particulier, comment les choses ont évolué?
C'est vrai, oui, c'est pas... c'est pas très évident, mais moi, je trouve les gens, quand même, en général, il y a une ouverture, on est curieux, c'est ça en fait qui est. Quand on est curieux, ça aide les gens qui cherchent autre chose, que ce soit connu et reconnu peut-être. Après, comme nous, la musique, à mon avis, n'a pas de frontières. Si on a quelque chose, toujours il y a un public pour peut-être ce style de musique, un peu, on dit entre tradition et modernité en gros, ou jazz oriental. Il y a des gens qui cherchent ça aussi, il y a des gens par curiosité, des fois ils tombent amoureux de ce genre de musique. Voilà, qu'est-ce que je peux dire là? Le public, Je ne sais pas après, voilà, peut-être il y a des choses, comment ils le trouvent, les gens, je ne sais pas.
Hassan, qu'est-ce que nous venons d'entendre ?
En fait, ça s'appelle Jam. C'est un morceau que c'est la dernière composition que j'ai fait avec Talawin. C'est Jam, J-A-M. Qu'est-ce que ça veut dire, Jam ? C'est une très bonne question. En fait, j'ai donné le titre comme ça parce que je n'ai pas trouvé un autre titre. Je dis Jam, ça me plaît comme son. On était chez moi à la maison, on a travaillé. Mon épouse était dans la cuisine, elle écoutait notre musique. On dit, c'est moi, j'ai dit que j'ai vraiment, j'aime beaucoup Jam. Alors ma femme me dit de la cuisine, c'est qui c'est Jam? Ça m'a plu comme réaction, c'est vrai, c'est qui c'est Jam. Alors le morceau suivant, j'ai composé le deuxième morceau, c'était intitulé C'est qui c'est Jam. Alors sur notre prochain album qui va sortir, il y a Jam et il y a C'est qui c'est Jam.
On aura peut-être la réponse sur le prochain album. Ah, voilà. Alors. Ok.
Et alors, vous avez démarré cet entretien en nous parlant d'une rencontre improbable avec la musique celtique. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer d'autres musiques et comment ça se passe? Est-ce que c'est la force de la musique qui vous porte à vous entendre tout de suite ou
Là, on est obligé de rencontrer. Si un bon musicien, il doit rencontrer des autres styles de musique, à mon avis. Même quand on fait la musique classique, les très strictes, il faut aller vers les autres musiques parce que chaque musique, c'est un monde quand même. Alors, j'ai rencontré, bien sûr, la musique des musiciens du jazz, la musique flamenco, joué avec quelques... Mais ce n'était pas un projet à long terme. La musique tzigane, c'est un monde extraordinaire, la musique tzigane. Après, la musique d'Afrique du Nord... en fait, moi, j'ai découvert toutes ces musiques ici en France. En Syrie, on écoutait vraiment, par exemple, la musique classique, ok, la chanson. Sauf si on est spécialiste, tout ça, on peut chercher, trouver, mais c'était pas facile. L'ouverture n'était pas facile. Là, on a l'habitude, dans la culture, en fait, d'écouter autre chose. C'est ça aussi qui joue. Plus la possibilité, c'est accessible. On voit les groupes, la musique autour de nous, on voit la musique tzigane et on voit les tziganes aussi, pareil, flamenco, etc. On vit dans la musique du monde, en fait. Après, voilà, ces expériences, pour moi, c'est toujours... voilà, quand j'ai envie d'écouter, d'aller assister à un concert, en fait, je ne cherche pas forcément le style. Les instruments, est-ce que j'ai entendu parler de ce groupe, etc. J'ai pas un style précis à écouter. Mais là, actuellement, en fait, avec toute cette période-là, finalement, j'ai limité, en fait. Je fais que ce style de musique, on peut dire. Voilà, on peut dire entre guillemets jazz oriental.
Alors, vous êtes en train de nous concocter un nouveau CD, c'est un peu votre actualité, qui va sortir à la rentrée, hein, en septembre-octobre. Quelle a été l'inspiration de ce CD?
C'était les couleurs.
Voilà. Encore?
Oui, encore.
Et toujours
couleurs. Oui, oui. Le titre de l'album, c'est Azrak, qui veut dire bleu. Et Nicolas a composé aussi un morceau qui s'appelle Banafsazi. Banafsaji, violet. Et le groupe, c'est Alawine aussi, coloriage, voilà, il y a plein de couleurs. Bon, j'ai dit ça, peut-être c'est pas que ça, bien sûr. Cet album, en fait, comme ça fait quand même 4 ans qu'on est ensemble, qu'on se connaît très bien, on a voulu enregistrer les morceaux qu'on jouait depuis quelques années. Après, on s'est dit non. On a essayé d'enregistrer une maquette. Il manquait quelque chose parce que ça fait longtemps. On les joue parce qu'on les connaît très bien et ça marche très bien, mais il n'y a plus cette énergie de départ. Alors on a décidé d'enregistrer des nouveaux morceaux. Juste on a gardé 2 anciens morceaux, après on a composé, on a fait en fait que des nouveaux morceaux plutôt. Pour garder la fraîcheur, là, c'est toujours quand on joue un thème... Voilà, depuis par exemple 2-3 mois, c'est pas pareil si on le joue depuis 4-5 mois. Et c'était très efficace cette idée finalement, parce que on se connaît bien musicalement, alors voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps quand même, parce que voilà, on a l'expérience ensemble. Et les compositions, l'inspiration, en fait, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas. Moi, il y a un peu, il y a des fois dans mes thèmes, j'ai remarqué, oui, il y a un peu de tristesse malheureusement des fois, oui. Et parce que je suis un peu comme ça maintenant, un peu triste, pas tout le temps, heureusement. Mais surtout avec ce qui se passe en Syrie, voilà, je suis d'origine syrienne, j'ai des amis là-bas, mais voilà, je connais les détails, c'est ça qui me rend triste, et c'est ça, ça on le voit dans la musique. Hein, et surtout, le Riwaya, le premier morceau que j'ai joué. Riwaya, c'est vraiment, c'était, voilà, c'est la Syrie pour moi, c'est la Syrie, Riwaya.
Oui. Et vos séances de travail à tous les trois, ça se passe comment? Ça dure longtemps? Vous y revenez souvent?
On travaille... Oui, on se voit souvent, plus ou moins. Les deux musiciens sont un peu, quand même, ils sont un peu pris. Nicolas et Roméo sont un peu pris. Par exemple, Nicolas, il est professeur au conservatoire de Châlons et en même temps, il est sollicité pour jouer dans un orchestre aussi qui fait musique classique. Et alors, il voyage beaucoup. Roméo, pareil, il travaille dans... avec une compagnie de théâtre comme compositeur et percussionniste, et aussi il joue avec un orchestre. Ils sont un peu pris, mais quand même on trouve toujours le temps de se voir. On va chez Nicolas, surtout il a une maison, petite maison à la campagne à côté de Châlons. On va là-bas, on reste une journée, c'est ça. Il faut quand même de travailler, faire la musique. Pour moi, c'est du temps. Il faut passer le temps. Il ne faut pas être pressé. Sinon, c'est pour juste répéter techniquement. Ce n'est pas très intéressant, toujours. Alors, on prend le temps. On ne se voit pas beaucoup, mais quand on se voit, on prend le temps, si je peux dire.
Oui. Alors, pour revenir au CD, je pense que c'est difficile. Bon, alors... de l'enregistrer peut-être, je ne sais pas où l'avez enregistré, et après c'est la diffusion. Comment avez-vous résolu le problème?
Alors le CD, on l'a enregistré un peu dans un studio, dans le, j'ai oublié, c'est dans un village aussi au nord de la Bourgogne. Il y a une petite label qui a pris en charge, et une boîte qui s'appelle Karakib. Une grande association, je ne sais pas, grande ou petite, une boîte de production à Lyon, gérée par un ami palestinien qui s'appelle Iyad Abdo. C'est lui qui va prendre charge, en fait, la diffusion de l'album. Et après, on verra, en fait, une fois c'est sorti, après, on va voir si, voilà, on peut trouver des autres moyens.
Après, le bon moyen, c'est aussi de les vendre après les concerts.
Voilà, l'objectif principal, c'est ça, parce qu'il faut dire que le marché des CD, voilà, il n'est pas en forme. Ça veut dire, maintenant, on fait les CD, c'est surtout pour garder des traces, c'est pas pour gagner là-dessus, ça c'est sûr. Hein. Un CD, ça coûte quand même, ça coûte cher. Et là, maintenant, les gens n'achètent plus. On achète après les concerts, heureusement. On a gardé cette habitude d'essayer. On l'achète parce qu'on a envie de garder des traces de ce concert. Parce qu'on a aimé ces musiciens. Voilà, ces souvenirs, etc. Et voilà, mais nous, on ne compte pas plus que ça, si vous voulez. On ne compte pas plus que ça sur le CD. Normalement, lui, le CD sort fin juin, hein, mais peut-être on va le présenter officiellement en septembre, octobre. On va voir, on ne sait pas. Encore.
Est-ce qu'il vous arrive de vous produire à l'étranger?
À l'étranger, avec Talawin, est-ce qu'on était à l'étranger? Non. Mais on va jouer en Belgique bientôt, en septembre. Oui. Et à Berlin, je crois aussi, ça sera, mais voilà, pas, ça sera encore... Je ne sais pas quand exactement, dans 5-6 mois. Mais non, c'est surtout, en fait, on joue à Lyon, dans la région Rhône-Alpes, des fois à Paris, dans le sud, des fois bon, en France principalement. Ouais.
Et c'est vous qui trouvez les dates ou vous avez quelqu'un qui s'en charge, un agent?
On n'a pas d'agent, tout simplement. En fait, on avait un agent, mais... il nous a quittés il y a, ça fait 5-6 mois, Maintenant, il y a cette boîte de production en fait, qui va nous prendre en charge aussi les concerts et les diffusions de CD Karaki. Oui. Mais pour le moment, avant la sortie de CD, en fait, on n'a pas d'agent. On travaille avec notre réseau personnel, tout simplement.
Alors, si on veut plus d'informations, on peut vous trouver sur Internet.
Il faut taper Talawin, T-A-L-W, c'est ça?
Talawin.
Talawin, T-L-A.
W-I-N.
I-N-E. Et oui. Wix, c'est sur le site Wix, W-I-X. On trouve les informations. Normalement, on va les mettre sur le CD, la sortie, le concert de départ. Je crois que ça va être dans la maison des passages à Viollion. Mais voilà, on va communiquer ça prochainement.
Merci Hassan Abdelrahman. Merci du cadeau que vous nous avez fait en venant avec votre instrument. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.